Vous êtes sur RTL.
4 janvier.
Alors là, vous avez une bouteille, donc deux bouteilles. Il y en a une qui a été traitée au gibolin et l'autre pas.
Quand on nous dit
que le gibolin dénature le vin, je dis...
Ouais. Et c'est un fortifiant.
Des chiens, évidemment, pour lancer cette séquence. Je suis pas sûr que l'homme dont on va parler mettait du gibolin dans ses bouteilles de vin.
C'était pas loin, peut-être.
On va voir. Bonjour, Elsa L'Héritier.
Bonjour,
bienvenue chez nous.
Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires, et donc vous avez enquêté sur ce faussaire en vin, Rudy Kurniawan. Pour poser le décor, on a quelques minutes, et puis ensuite on va aller jusqu'au bout de l'émission. On va raconter une vente aux enchères que cet homme organise. On est à New York, on est en 2006, c'est même deux ventes aux enchères pour être précis. Combien de bouteilles seront vendues et pour quel montant ?
Alors tout à fait, on est en 2006, Rudy Kurniawan a 29 ans. À ce moment-là, il est ami avec John Caponca, personnage qui est important dans cette histoire, qui est un jeune commissaire-priseur, et tous les deux vont organiser deux ventes aux enchères. La première, The Cellar, la cave donc. Ils vont vendre, je crois, plus de 4000 bouteilles pour 10 millions de dollars, c'est un record. Absolue. Et une deuxième vente aux enchères, donc The Cellar numéro 2, plus de 8000 bouteilles, cette fois-ci, 25 millions de dollars. Donc en un an, avec ces deux ventes aux enchères, c'est 35 millions de dollars de vins vendus. C'est un record
dans leur poche,
absolu.
Quoi.
Et qu'est-ce qu'on découvre, Elsa L'Héritier ? C'est que ce sont des vins faux ?
Alors, une grande partie, en tout cas, peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie, surtout une grande partie provient de la cave de Rudy Kurniawan, qu'il appelle sa cave magique. Donc on va comprendre pourquoi. En fait, il recrée des vins, des grands vins de Bourgogne notamment, et aussi de Bordeaux.
Mais qui ne valent absolument pas ce prix-là.
Pas du tout. En fait, il recrée des vins à partir de vins de Californie, tout simplement, parce qu'il a appris à développer un palais, et donc il a une mémoire olfactive, et donc il recréer des vins, des faux vins évidemment, qui n'ont pas du tout cette valeur-là.
Alors on va raconter l'histoire en détail, découvrir ce personnage Rudy Kurniawan et aussi comment il a réussi, ce faussaire, à berner des acheteurs du monde entier. Romane Conté, Petrus, ça fait rêver ça.
Ouais.
Vous en avez déjà goûté ?
Non.
Même moi non plus. Mais grâce à Rudy Kurniawan, on va les tester. Allez, à tout de suite sur RTL.
C'est vrai.
Voilà.
Alors docteur,
oui.
Pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié.
Il y a un vin approprié.
Là, par exemple, ici, un vin doux.
Alors un vin doux, c'est un vin qui sait qu'il est vraiment à indiquer chez le convalescent.
RTL.
Ça ne peut pas faire de mal.
Oh, ça ne fait pas.
Alors là, le champagne, on peut aussi peut-être...
Alors le champagne, lui, est un vin qui contient beaucoup de phosphore.
Sidonie Bonnec.
C'est-à-dire que ça peut en aucun cas faire du mal.
Ça ne peut pas faire du mal.
Thomas Hugues.
Le Bordeaux, docteur.
Alors le Bordeaux est un vin qui contient des sels de fer.
La curiosité.
Ça ne peut pas faire de mal.
Ça ne peut pas faire de mal.
Est un vilain défaut.
Sketch, extrait d'un sketch avec Stéphane Collaro. On est en 1974. Comment vous dire, la loi E20 n'avait pas encore été votée, manifestement.
Je trouve ça bien de voir le bon côté des choses, vous voyez, le verre de vin à moitié plein, quoi. Voilà.
Voilà, c'est ça. C'est l'histoire extraordinaire d'un faussaire en vin que l'on vous raconte sur RTL avec la journaliste Elsa L'Héritier. Alors, il s'appelle Rudy Kurniawan. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui ? Est-ce qu'on connaît son année de naissance, sa nationalité, ou est-ce que c'est un mystère, cet homme ?
Alors, on ne sait pas grand-chose de ce Rudy Kurniawan. On sait simplement, nous, on a un petit peu enquêté, et les premières traces, en tout cas, les premières personnes qui l'ont croisé, c'est au début des années 2000. Il rentre dans une boutique de vin en Californie. Il rencontre le fils des propriétaires de cette boutique, qui s'appelle Kyle Smith, et à qui il va raconter un petit peu son histoire, mais une histoire un peu décousue. C'est-à-dire qu'il explique qu'il vient d'une famille richissime d'Indonésie, ou plutôt chinois d'Indonésie, que ses parents ont fait fortune dans la bière, notamment. Qu'il est venu aux États-Unis pour continuer ses études, on ne sait pas quelles études, ou pour devenir grand golfeur, on ne sait pas très bien. Donc c'est un petit peu flou en fait au départ de.
Comment il débarque dans l'univers de vin, ce futur faussaire en vin ?
Alors justement, il entre dans cette boutique de vin.
Et il rencontre un œnologue aussi,
ah
c'est
oui,
ça
il fait l'entre-vendeur de cette boutique de vin s'appelle Paul Wasserman. Ouais. Donc il est œnologue. Il est considéré comme le meilleur connaisseur en vin français à cette époque, dans ce peut-être cette petite ville. Mmh. En fait, il a vécu en Bourgogne, ce Paul Wasserman. Sa mère était une première importatrice de vin français de Bourgogne aux États-Unis.
Et donc, il se rend compte très vite que Kurniawan est doué.
Exactement. Il va lui apprendre en fait les premières bases, donc à développer son palais, à reconnaître différents goûts, différents cépages, la vinification. Et en quelques mois, en fait, il développe un palais extraordinaire. Et ce Paul Wasserman se rend compte qu'effectivement, il a affaire à quelqu'un qui a un don.
Est-ce que devant Paul Wasserman ou avec Paul Wasserman, Rudy Kurniawan va déjà créer des vins ?
Alors non. Pas devant lui, évidemment. Ouais. Paul Wasserman, il n'était pas dans le documentaire, mais en tout cas, j'ai eu longuement au téléphone. Lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il a commencé à dépenser un peu d'argent dans des très bonnes bouteilles et que certainement, en achetant ses premières bouteilles, voilà, il s'exerce en tout cas à reconnaître quel est un bon vin de Bourgogne, un Romanée Conti. Voilà,
et donc, notre faussaire en vin, ce Rudy Kurniawan, va intégrer un club de riches acheteurs. On est en 2003, on est à New York, ça s'appelle les 12 hommes en colère, ce club. Et alors, il a une manie à la fin, et c'est important pour comprendre ce qu'il va faire, à la fin de ses dîners très chics, très sélects, il a une manie, laquelle ?
Alors, il a une petite manie, effectivement. Ouais. Il demande, en fait, à récupérer les bouteilles qu'il déguste, que ces hommes en colère, donc ce club boit, pour les ramener chez lui. Des bouteilles vides, évidemment, ouais. Pour les ramener chez lui. Et à partir de ces grandes bouteilles, il va simplement recréer des vins, donc les re-remplir d'autres vins pour en créer d'autres.
Mais alors, j'imagine que si des amis ou des professionnels visitaient sa cave, ils voyaient ces grands vins avec ces étiquettes. Et comment il justifiait Rudy, je ne retrouve plus son
Kurniawan.
Nom, Kurniawan, pardon, qu'il avait des bouteilles aussi, aussi chères et aussi célèbres.
Alors, c'est pas aussi simple. En fait, c'est quelqu'un qui, comme les grands arnaqueurs, en tout cas, qui ment beaucoup, qui est un beau parleur, en fait. Ouais. Donc, personne n'a jamais vu cette cave magique. On estime que c'était 50 000 bouteilles dans cette cave. Personne ne l'a jamais vu.
Lui, disait ça. Il disait, voilà. Je suis l'héritier d'une famille très riche et donc
exactement.
J'ai 50 000 bouteilles
et surtout,
chez moi.
Surtout, c'est un personnage. En fait, il s'est un peu transformé. Il faisait partie de toutes les ventes aux enchères. Il avait toujours son paddle, donc son panneau levé pour acheter les plus grandes bouteilles. Donc, personne n'a soupçonné que ces bouteilles étaient fausses.
Ouais.
Voilà, donc ça tient que sur
son arrogance.
Son arrogance, exactement.
Et donc, Elsa l'héritier, il y a cette double vente aux enchères dont vous nous avez parlé, 2006 à New York. Parmi les vins proposés, il y a des Bourgognes du domaine Ponceau, des millésimes des années 50 et 60. Ça fait tiquer l'un des clients. Qui est ce client et pourquoi ça le fait tiquer?
Alors, Douglas Barzelay, c'est un avocat américain qui est donc un connaisseur, fin connaisseur de vins et collectionneur. Ouais. Il connaît très bien Laurent Ponceau et
le patron des domaines Ponceau. Ouais.
Des domaines Ponceau. Il se rend compte dans une troisième vente aux enchères, dans un catalogue, ouais. Qui a un vin, un vieux Clos Saint-Denis, je crois, des années 40, 50, 60. Ça le fait tiquer. Il appelle Laurent Ponceau, il lui demande est-ce que cette production existe bien à telle année. Il lui dit effectivement non. La première production de ce vin commence en 1982. Donc, ça lui met la puce à l'oreille.
Et donc, il alerte Laurent Ponceau. Et c'est cette enquête, parce que Laurent Ponceau va évidemment batailler, enquêter sur celui qui met ses faux vins en vente aux enchères à New York. Et il va nous raconter, il sera avec nous en direct dans un instant sur RTL, comment, finalement, il a fait tomber Kurniawan, le plus grand faussaire en vin de l'histoire.
Curiosité est un vilain défaut.
Tu vas pas lui donner un vin dont on sent à 10 mètres qu'il est hors de prix.
Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai.
Il s'y connaît en vin, Cheval ?
Cheval en vin ? Ah oui, il s'y connaît.
Thomas Hugues.
Qu'est-ce que tu fais ?
Sidonie Bonnec.
Je fous du vinaigre dans mon château Lafitte. C'est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette.
Bizarre, ça lui donne du corps, je trouve.
Ah oui ? C'est bon à savoir, ça.
Et oui, certains dîners de cons virent vraiment au dîner de cons. Enfin, ce sont vraiment des bons dîners de cons, se fait bien avoir. C'est l'histoire d'un faussaire en vin qu'on vous raconte dans La Curiosité avec la journaliste Elsa l'Héritier, qui a enquêté sur un personnage incroyable, Rudy Kurniawan. Et avec nous, en direct de sa propriété de Moret-Saint-Denis en Bourgogne, Laurent Ponceau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Quand et comment vous avez entendu parler de ce Rudy Kurniawan pour la première fois ?
Oh, c'était un monsieur qui achetait beaucoup de vin. Il avait défrayé la chronique dans le microcosme du vin de haut de gamme et il achetait jusqu'à $1 million de vin par mois. Donc effectivement, j'avais entendu parler de ce type-là sans jamais l'avoir rencontré d'ailleurs.
Et ces vins incroyables qu'il proposait dans les ventes aux enchères ne pouvaient absolument pas venir de votre domaine. Pourquoi Laurent Ponceau ?
Alors, lors d'une vente aux enchères en 2008, il avait mis sur le marché des vins des années 40, 50 et 60 d'une de nos appellations que nous n'avons commencé de produire qu'en 1982. Donc forcément, il y avait un petit problème.
Et donc, vous faites quoi ? Vous allez à New York, c'est ça ? Vous cherchez,
oui,
à faire retirer les vins ?
Oui, bah après avoir discuté avec le commissaire priseur au téléphone et sans avoir eu la certitude qu'il allait retirer les vins, j'ai décidé 2 jours plus tard de me retrouver dans la vente aux enchères à New York pour effectivement faire sortir les vins de cette vente aux enchères.
Vous y êtes pris comment, hein ? Ouais.
Ah ben c'est tout simple, je suis un peu connu dans ce milieu-là. Quand je suis arrivé dans la salle des ventes et j'avais à l'époque des cheveux assez longs, donc assez facilement reconnaissables, tout le monde a murmuré, a dit voilà, Laurent Ponceau est là. Et donc le commissaire priseur n'a pas pu faire autrement que de retirer les vins de la vente. Et moi je l'ai rencontré à la fin de la vente.
Il y avait combien de bouteilles de votre domaine qui étaient mises en vente ce jour-là et à quel prix ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quel bénéfice ce faussaire aurait pu en tirer ?
Alors, il y avait un peu moins de 100 bouteilles, 85 ou 6 bouteilles, je me souviens plus exactement, estimées entre 1 million et 1 600 000 dollars pour la totalité du lot. Si c'était des vraies bouteilles, on peut peut-être dire que c'était le prix, mais bon, bien que je sois pas très favorable à la spéculation, mais si c'est des fausses bouteilles, le bénéfice, il est quasiment de la totalité, puisque c'est pour 80 bouteilles achetées à environ à 20 euros la bouteille, ça fait une belle culbute.
Alors on imagine la scène incroyable, c'est la fin de la vente aux enchères. Laurent Ponceau, vous êtes face au faussaire, donc Kurniawan, qui a voulu vendre votre vin et se faire de l'argent sur votre dos et votre domaine. Qu'est-ce que vous lui dites ? Il est démasqué ? Quels sont vos premiers mots ?
Alors, je l'ai rencontré le lendemain lors d'un déjeuner et ma première réaction, c'était de lui demander d'où venaient les bouteilles, puisque dans mon esprit, ce type avait acheté ces bouteilles, avait découvert qu'elles étaient fausses et essayait de les revendre, sans dire rien à personne. Je n'avais pas encore considéré que c'était un prédateur, mais plutôt une victime qui essayait de se défausser.
Et c'est le rôle qu'il a essayé de jouer ?
Alors, oui, plus ou moins. Plus ou moins. Il était étonné que les bouteilles soient fausses déjà. Et donc quand la réponse a été à ma question de savoir où était d'où venaient les vins, la réponse a été très évasive. Je ne sais pas, j'achète tellement de vins. Mais quand on a entre les mains une centaine de bouteilles du domaine Ponceau d'anciens millésimes, on sait d'où ça vient. C'est rarissime. C'est vraiment très très rare.
Et donc vous allez décider, c'est là que ça devient encore plus intéressant, encore plus passionnant, Laurent Ponceau. Vous décidez de mener vous-même l'enquête, combien de temps ça vous prend et jusqu'où ça va aller ?
Alors effectivement, j'ai commencé de faire mes investigations dès le lendemain d'ailleurs, de cette vente aux enchères. Je me suis organisé, ça m'a pris 2 ans, on va dire, d'investigation tout seul dans mon coin, incognito, à essayer de trouver des traces, des fausses bouteilles, et puis de le surveiller lui. Et j'ai été contacté au bout de 2 ans par un agent du FBI et un procureur de la République aux États-Unis qui m'ont demandé si je pouvais les aider parce qu'ils avaient appris que je cherchais un petit peu les tenants, les aboutissants de ces affaires-là.
Oui.
Et nous avons travaillé en collaboration encore à peu près 2 ans.
Vous avez pu prouver que c'était un faussaire ?
Ah oui, absolument. Moi, j'ai accumulé des preuves que j'ai pu obtenir au fur et à mesure de mes voyages à la fois aux États-Unis et d'ailleurs dans d'autres pays, de savoir qui c'était déjà et de tout ce qu'il avait fait. On a trouvé des preuves et environ 90% des preuves présentées au procès viennent de mes investigations.
Est-ce que vous diriez, Laurent Ponceau, qu'il n'était pas facile à démasquer ce Rudy Kurniawan ? Est-ce que c'était un bon faussaire ?
Alors, c'était un faussaire, oui, on peut dire que c'était un bon faussaire, si tant est que ça puisse être bon de falsifier. Mais, et contrairement à ce qu'on a dit, il n'a pas fait des mélanges savants dans les bouteilles. Il achetait simplement des bouteilles de vieux vins de millésimes assez inconnus à des vils prix dont il remplaçait l'étiquette par un nom prestigieux et qui revendait ça 10, 20, 500 fois le prix ou 1000 ou 10 000 fois le prix. Et donc, en ce sens, il y avait une certaine intelligence. Mais voilà, bon faussaire, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Merci beaucoup, Laurent Ponceau. Bonne année en Bourgogne et bravo à vous, puisque ça vous a valu quand même, cette histoire, le titre d'agent honorable du FBI.
Absolument.
C'est pas banal, ça. Donc, félicitations. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Elsa Léritier avec vous. On va continuer de raconter le destin de ce Rudy Kurniawan et raconter notamment l'arrestation de ce bonhomme par le FBI. À tout de suite, les curieux sur RTL. As long.